À la rencontre de ceux qui font l'actualité dans l'Est ontarien, Guillermo sur la Go. Voici Guillermo Todesa.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. David Bellerive, qui est porte-parole du projet Go Alto. Bonjour, M. Bellerive, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Et M. Bellerive, on se parle aujourd'hui parce que je vous l'ai dit d'entrée de jeu à micro fermé que le projet du TGV Alto n'est pas très populaire ici dans la région, dans l'Est ontarien. Il y a même des mouvements qui s'appellent Alt-No qui s'opposent au projet de TGV. Mais vous, vous êtes le porte-parole et un des membres fondateurs du projet Go Alto. Et vous êtes pour le projet de TGV, que c'est une très bonne chose, un très beau projet, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Donc, Go Alto, c'est une campagne indépendante. Notre but premier, vraiment, c'est de montrer l'importance de ce projet. Donc, mm-hmm. c'est certain, c'est un projet qui va être vécu différemment par les différentes régions, que ce soit les villes, les territoires ruraux, les fermes. Mais c'est vraiment important, je crois, de aussi considérer la grande image derrière tout ça. Quand on parle d'un projet qui va être un investissement générationnel dans la capacité du pays d'attirer des talents, mais aussi de se développer. Donc, on aime ça, avoir la chance de pouvoir valoriser pourquoi le projet a une importance aussi forte pour nous.
Et quel est l'objectif principal de votre campagne, M. Bellerive?
Nous, c'est certain, on veut soulever un appui au projet. On croit que c'est un projet qui mérite d'aller de l'avant, mm-hmm. mais on est aussi conscient que les réalités sur le terrain sont différentes de peut-être la réalité plus urbaine. Donc, nous, ce qu'on veut mettre l'emphase là-dessus, c'est vraiment un projet qui soit réalisé de façon responsable et qui soit réalisé en partenariat avec les différentes communautés le long de la route. Donc, pour donner un exemple concret de ça, évidemment, on a eu la première phase de consultation à l'hiver dernier dans lequel près de, si je me trompe pas, 10 000 personnes, même plus que ça, ont participé en donnant du feedback et des commentaires par rapport au projet. Nous, on veut que ce soit quelque chose que cette participation civique soit vraiment un élément qui permet de bâtir un meilleur projet pour tous. Pour les utilisateurs, pour les personnes qui vont vivre à proximité, mais aussi mm-hmm. pour les communautés qui vont pouvoir contribuer à son élaboration et son développement.
J'ai parlé avec les dirigeants d'Alto et ils m'ont dit que c'est un projet qui aurait dû être fait il y a des années de ça. Vous, est-ce que vous estimez que le Canada ne peut plus se permettre de repousser la construction d'un train à grande vitesse de cette envergure?
Écoutez, sur notre page d'accueil de notre site web, on est très fiers de notre phrase qu'on dit que le Canada a assez attendu et on mm-hmm. est assez convaincus là-dessus. Donc, au cours des 60 dernières années, on a fait étude après étude par rapport à un projet de train à grande vitesse. Et les conclusions ont toujours été les mêmes, qu'on a un corridor qui est adapté à ça déjà en partant par le fait que nos grandes villes sont principalement linéaires, mais en plus, le besoin évolue de plus en plus. Donc, la croissance de la population est déjà un facteur qu'on voit depuis des décennies au Canada, mais en plus de ça, il ne faut pas oublier, nos habitudes de déplacement en ce moment sont limitées par nos options. On a un train, on a les trains de Via Rail qui sont autant limités en capacité qu'en fréquence. On a l'auto solo qui, oui, c'est une option, mais qui implique des longs temps de trajet, qui implique aussi des questions d'accessibilité et de capacité pour les gens, justement, prendre ces longs trajets. Et l'avion reste une option qui est disponible, mais à un coût fortement plus élevé, qui est aussi, évidemment, je ne crois pas que c'est le moment préféré d'un voyage à tout le monde de passer à l'aéroport. Donc, on a vraiment un environnement de transport qui crée de la friction à chaque opportunité. Je crois qu'on sous-estime vraiment la capacité du monde à vouloir se déplacer entre les vélos dans le corridor.
Et M. Bellerive, quelle a été votre motivation de lancer l'initiative Go Alto maintenant que le projet est à ses débuts encore, à sa genèse?
Je crois que la principale motivation derrière la campagne Go Alto, c'est vraiment, on veut que ce soit un projet qui est bâti selon la meilleure expérience internationale, mais aussi les meilleures pratiques qu'on a développé au Canada pour la gestion de projets. Donc, c'est certain, c'est très facile de pointer à des projets qui se sont mal réalisés, mm-hmm. mais tous ces projets-là, c'est des apprentissages pour justement s'assurer que le projet d'Alto se réalise de la meilleure façon possible. Donc, nous, on met vraiment l'emphase dans cette optique, on met vraiment l'emphase sur l'éducation. On veut contribuer à ce que la discussion soit éclairée, qu'elle soit basée sur autant des faits que des études, mais aussi sur justement l'importance d'agir maintenant plutôt que de repousser le problème à plus tard.
Et selon vous, M. Bellerive, quels seraient les principaux avantages économiques d'un corridor entre Québec et Toronto?
Déjà, en partant, faut pas oublier que c'est pas loin de la moitié de la population du Canada qui réside dans ce corridor actuel. Mm-hmm. Et près de la moitié aussi de l'activité économique au pays qui s'y passe. Donc, le TGV en soi, c'est vraiment un outil de croissance. Pour mettre en d'autres, une autre perspective, ce que le TGV permet, c'est de faciliter les déplacements. Il permet de transformer les habitudes de voyage des gens, mais aussi il permet aux entreprises d'être plus compétitives, de pouvoir aller chercher des talents dans des régions plus spécialisées, des talents spécialisés dans d'autres régions. Donc, on ne fait pas juste permettre aux gens de se déplacer plus rapidement, on rapproche les marchés, on rapproche les opportunités, on rapproche tout ça des gens qui participent déjà activement à cette économie. Donc, c'est la puissance d'un TGV, c'est pas sa vitesse, c'est pas son flash, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'il permet de créer pour les communautés le long du trajet. Pour donner une idée, Alto, je sais que tu utilises souvent le chiffre de 25 milliards mm-hmm. de dollars, entre 25 et 35 milliards, dépendamment, pour justement l'impact économique du TGV. Ça, c'est de la croissance dans l'économie du Canada qui se représente environ 1 % Et c'est pas juste 25 milliards après ça, l'argent qu'on a dépensé est disparu. C'est vraiment une croissance sur laquelle l'économie continue de croître année après année grâce à cet investissement-là. Donc, c'est un investissement qui est un gros chiffre, mais qui a des impacts encore plus grands quand on regarde l'image plus grande.
Et vous avez mentionné tout à l'heure le réseau ferroviaire déjà existant de Via Rail. Pourquoi est-il nécessaire, selon vous, de construire ce corridor qui serait réservé aux trains de grande vitesse pour les passagers plutôt que de simplement améliorer le réseau ferroviaire déjà existant?
Le réseau ferroviaire existant est limité par plusieurs facteurs. Le plus commun, c'est vraiment le fait que l'infrastructure n'appartienne pas à Via Rail. Donc, Via Rail est obligé de travailler avec ses partenaires, Canadian National ou Metrolinx dans le coin de Toronto, mm-hmm. Pour offrir ces services. Donc, ça limite le nombre de départs qui est possible par jour, mais aussi ça fait que les passagers n'ont pas priorité sur cette infrastructure-là. Donc, ça entraîne des délais, ça entraîne des réductions de vitesse, ça peut entraîner ça entraîne tout ce qui fait qu'en ce moment que le système ferroviaire est donc plus une option limitée pour bien les gens. Nous, notre position d'ailleurs à ce sujet, c'est qu'on croit que c'est vraiment important de construire l'infrastructure du train à grande vitesse parce que ça crée une colonne vertébrale au sein du corridor. Ça crée une option structurante qui permet de connecter ces réseaux, justement les routes de Via Rail qui sont opérées en ce moment, et de les connecter à un réseau d'ordre plus grand, plus rapide, qui permet de couvrir les longues distances. Donc, on est toujours assez clair à ce sujet-là. On croit que c'est pas parce qu'on investit dans Alto qu'on ne devrait pas investir dans Via Rail. Et on devrait donner à Via Rail les outils pour justement croître leurs services et permettre aux gens de se déplacer plus facilement. Et d'un point de vue technique aussi, il faut pas oublier que c'est Via Rail, sur son emprise, dans l'Est ontarien, on pense souvent au fait que Via Rail sont pas mal les seuls trains qui utilisent les rails qui sont installés. Par contre, quand on va du côté de, par exemple, entre Montréal et Québec ou qu'on va entre Montréal et Toronto, les rails sont partagés avec des trains de marchandises de plus en plus fréquents, de plus en plus longs. Donc, l'option, et c'est évidemment le long de la 401, donc ça veut dire que le territoire est déjà plus dispendieux à acquérir, il est plus difficile à naviguer, et il faut être capable, pour construire un train à grande vitesse, il faut vraiment être capable d'aligner autant l'espace que la vision à long terme. Et dans ce sens, de simplement mettre à jour Via Rail n'est pas suffisant, nous croyons.
Monsieur Bellerive, on a souvent mentionné durant des points de presse d'Alto qu'on est un des seuls pays où on est le seul pays dans le G7 à ne pas avoir de train à grande vitesse. Selon vous, pourquoi le Canada a autant de retard en matière de train à grande vitesse par rapport aux autres pays?
Je crois qu'on est un pays qui a beaucoup d'indécision dans ses projets. si on regarde les 15 dernières années, on a eu les 20 dernières années, on a eu le projet Éco-Rail de Via Rail qui était un train à grande vitesse justement entre Toronto, Québec et même jusqu'à Windsor, mm-hmm. Qui a été étudié et l'étude n'a mené à rien de concret par la suite. On a le projet de train à grande fréquence, ça a été commencé aux alentours de 2015-2016. Ce projet-là est devenu Alto, justement, parce que à la force d'étudier le projet, à force de considérer avec les partenaires, la conclusion était qu'un projet de très grande vitesse était non seulement réaliste, mais plus avantageux pour le pays à long terme. Donc, je crois que l'inaction vient vraiment du fait qu'on a tendance à étudier et à voir une solution parfaite quand que la réalité, c'est qu'aucun projet n'est parfait. Chaque projet vient avec des impacts et c'est d'où l'importance de bâtir un projet on développe de façon cohérente avant de promettre des chiffres ou des finalités, mais aussi un projet qu'on est capable d'adapter aux besoins des gens qui vont vivre avec.
Monsieur Bellerive, le projet est encore à ses débuts. On est en train de faire des études de faisabilité, des études sur le sol. Le trajet, le tracé de la rail n'est pas encore officiellement dévoilé. Est-ce que le projet peut encore se frapper le bout du nez sur des obstacles qui pourraient encore retarder ou empêcher sa réalisation?
Je crois que c'est toujours possible qu'on identifie des obstacles, mais c'est le meilleur moment pour identifier ces obstacles-là, justement parce qu'on est à un moment dans le projet qu'on peut on peut encore librement définir c'est quoi son alignement spécifique. C'est vraiment le bon moment pour se poser ces questions-là. C'est certain, évidemment, le gouvernement fédéral se garde la porte de sortie suite à la période de développement de faire en 2028-2029, de faire une décision finale par rapport à l'investissement. Et le gouvernement, à ce moment-là, décide de ne pas aller dans la direction d'un train à grande vitesse. Je crois que ce serait, si on peut se permettre un peu, du gaspillage de toute l'énergie du travail qui va avoir été mis jusqu'à présent. Mmh. Mais c'est certain, ultimement, c'est une décision qui est financée politiquement. Donc, c'est certain que nous, un peu la nature de notre campagne, on veut vraiment s'assurer que la décision, en bout de ligne, soit prise basée sur des faits, sur des besoins concrets et surtout sur un cas qui est bâti de façon démontrable, qu'on peut présenter aux gens et qu'on peut faire comprendre la valeur aux gens. Donc, ça, c'est le travail qui se passe en ce moment chez Alto.
Comme je vous disais, le trajet n'est pas encore officialisé. On va le savoir un petit peu plus tard cet automne. Il y a encore plusieurs aspects dans ce projet-là qui restent à être déterminés, comme l'emplacement des gares, par exemple. Et jusqu'à quel point c'est important de consulter les communautés et les citoyens avant de prendre une décision importante comme ça, selon vous?
Je crois que c'est très important de le faire parce que la réalité, c'est qu'on construit un projet qu'on veut qu'il serve la population. Donc, Alto, là-dessus, je crois qu'ils ont été assez constants et assez honnêtes à cet égard, que justement, le but d'un projet comme celui-ci, c'est de maximiser les retombées dans l'économie canadienne. Donc, on croit que les communautés le long du tracé, qu'ils aient une station ou non, c'est une opportunité de développement qui peut être associée à ce projet-là. Ça peut être l'opportunité de justement investir dans des nouvelles infrastructures, d'investir dans des transports locaux qui peuvent justement amener les gens aux stations les plus proches ou tout simplement de permettre aux entreprises locales de contribuer à la réalisation. Parce que un projet linéaire comme celui-ci qui va être sur plus de 1000 kilomètres, ça va pas être juste une entreprise qui va pouvoir tout réaliser. On va avoir besoin évidemment de la contribution des employeurs, des entreprises locales, de leur capacité de production, de construction. Donc, c'est vraiment un projet, je crois, que les communautés le long du tracé ont intérêt à s'y intéresser, mais aussi à voir comment que leurs communautés peuvent contribuer à accomplir ce projet-là de façon qui les bénéficie eux et également Alto. Donc, on encourage les gens vraiment des deux côtés à avoir des discussions honnêtes, de s'asseoir et de prendre le temps de considérer comment que le projet, c'est au-delà de peut-être d'avoir une station ou non dans chaque région, comment que le projet peut les bénéficier économiquement, socialement, mais aussi en termes d'opportunités pour les générations futures.
Et vous devez le savoir aussi, M. Bellerive, c'est la même chose pour plusieurs municipalités, en fait, c'est assez unanime dans l'Est ontarien, surtout les comtés unis de Prescott-Russell, Stormont, Dundas et Glengarry s'opposent de la façon que le projet est présenté en ce moment. Comment est-ce que vous pourriez essayer de convaincre ou de répondre aux préoccupations justement des municipalités sur ce projet-là?
Je crois que le plus important en ce moment, c'est de laisser la chance à Alto de faire leur travail et de faire leurs preuves. La raison pourquoi je dis ça, c'est que évidemment, on a un projet en ce moment qui est très dans ses débuts. On n'a pas établi tous les paramètres sont établis, mais aussi on ne sait pas les alignements exacts, on ne sait pas les réalités sur le terrain. Et ça, c'est l'importance de la phase d'étude. Mm-hmm. Donc, même si les municipalités, et évidemment, leur but, c'est de représenter leur population, puis ça, c'est un droit démocratique qui est très important à notre avis, mais on encourage les municipalités à au moins donner la chance à Alto de faire les études qu'ils ont besoin pour qu'on puisse, un, établir le meilleur tracé qui affecte le moins de gens possible, mais aussi dans mais également de travailler avec Alto afin de justement évaluer comment que le projet peut potentiellement bénéficier leur communauté à long terme. Donc, on croit que le dialogue ouvert et continu est très important, qu'on soit en accord ou en désaccord, mais évidemment, c'est comme on dit, ça prend les deux parties à la table pour arriver au projet qui bénéficie le plus de monde possible. Donc, on encourage ce dialogue-là.
Le coût d'un projet comme Alto est astronomique. On parle entre 60 à 90 milliards de dollars. Il y a quelques semaines, même le ministre des Transports fédéral, M. McKinnon, a dit en point de presse qu'il ne pourrait pas garantir que le projet n'allait pas dépasser les 90 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous diriez pour essayer de convaincre les contribuables, parce que c'est même des contribuables de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, qui vont payer pour ce projet-là, qu'il s'agit d'un investissement rentable à long terme?
Je crois que ça fait partie des devoirs pour Alto, de vraiment démontrer le code d'affaires pour le projet. Nous, ce qu'on croit qu'il est important de mettre l'emphase dessus, c'est vraiment que le projet en soi est un investissement dans notre pays. Je crois que de la même manière que, par exemple, le gouvernement fédéral a investi dans des projets de transport sur rail, comme je prends par exemple le SkyTrain à Toronto ou la Valley Line à Edmonton, on investit dans des projets localisés, mais qui ont des bénéfices au niveau national. Parce que les entreprises qui vont contribuer à ce projet-là vont embaucher des gens. Ça va créer des salaires. Ça va créer des opportunités de développement et de progression. On peut parler de la même chose en termes de, justement, la capacité économique qu'on développe. Et cette capacité-là, c'est des retombées que tous les Canadiens reçoivent d'une manière ou d'une autre au travers des services qu'on a dans notre pays. Donc, c'est certain qu'on peut regarder, disons, hypothétiquement une calculatrice et arriver à la conclusion que chaque Canadien va payer un certain montant d'argent pour un projet comme celui-ci. Mais je crois que c'est se rendre du service parce que on oublie la réalité que c'est un projet qu'on passe sur des décennies. Une construction qui va prendre pas loin de 10 à 12 ans. Mais en plus de ça, c'est quand il va être construit, le TGV, c'est un bien qui va appartenir aux Canadiens et qui va pouvoir opérer si on se fie aux tendances internationales, pour les 60 à 100 prochaines années sans avoir besoin de changements majeurs. Oui, il va falloir faire l'entretien. Oui, il va falloir s'en occuper correctement. Mais d'un point de vue, donc c'est un bénéfice à très long terme pour un sacrifice à plus court terme. Donc, on croit que c'est vraiment important qu'Alto soit capable de démontrer la valeur du projet, que ce soit avec des mesures économiques concrètes, mais aussi vraiment avec, je crois, c'est important d'aussi mettre en phase sur justement les aspects plus indirects. On parle du manque de capacité qui existe dans le corridor en ce moment. On peut parler aussi de l'impact environnemental des modes de transport actuels. Et on peut parler de justement le fait que de remettre à plus tard un projet va être encore plus coûteux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer parce que en ce moment, on parle de 60 à 90 milliards. C'est un estimé de départ. Mm-hmm. C'est vraiment, avant que la conception détaillée soit finalisée, c'est vraiment un estimé commercial pour donner une idée générale dans quelle direction ça va. Au travers de la phase de développement, peut-être certaines choses qu'on a prises pour acquis vont se montrer comme étant fausses ou plus coûteuses ou moins coûteuses. Ça peut aller dans toutes les directions, mais de faire ce devoir-là tout de suite, ça nous permet de s'assurer qu'on a les bonnes réponses aux bonnes questions pour pouvoir autant l'expliquer aux gens, mais aussi pour pouvoir expliquer la décision d'aller de l'avant ou, à l'inverse, une décision de ne pas le faire.
Qu'est-ce que vous diriez, M. Bellerive, aux agriculteurs qui sont inquiets de que le TGV, que le rail passe sur leur terre, sur leur terrain, qui ont peur d'être expropriés par ce projet?
Moi, je crois que c'est des craintes qui sont valides. C'est certain, évidemment, pour l'instant, on parle d'une carte avec un corridor de 10 km. La réalité, c'est quand le train va être construit, ça va être 60 mètres dans la majorité des emplacements pour les segments à haute vitesse. Donc, ça reste que c'est un impact qui va affecter des gens. Et notre position est claire là-dessus. On croit que toutes les personnes affectées doivent se faire compenser de façon honnête, mais aussi de façon transparente, de façon honnête, mais également de façon à reconnaître le fait que c'est une infrastructure qui est permanente par sa nature, c'est des impacts à long terme. On voit, nous, on a tendance à référer à l'expérience internationale à ce sujet-là. Par exemple, ce qui a été fait c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui a été fait en France, par exemple, avec les lignes à grande vitesse, c'est que les parcelles de terrain ont été réalignées pour justement assurer qu'il y a qu'elles soient continues pour les propriétaires afin de réduire, par exemple, la fragmentation des terres. D'autres mesures, comme l'installation de traverses spécifiquement pour le matériel agricole, que ce soit un tunnel à gabarit plus restreint que pour permettre le déplacement de voiture ou à l'inverse des viaducs qui permettent de le faire avec des distances plus rapprochées que les traverses pour les voitures. C'est des outils qui existent pour réduire justement ces impacts-là. Un peu pour revenir sur ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, mais c'est d'où l'importance d'un dialogue qui est vraiment ouvert entre les communautés locales et Alto pour justement identifier ces priorités-là à l'avance. C'est certain, comme on mentionne, c'est certain que ces impacts-là vont exister par la nature même du projet qui a besoin de terre et d'espace pour être construit, mais en travaillant en collaboration, on est capable de justement réduire potentiellement l'emprise nécessaire à certains endroits et également d'optimiser pour que les déplacements des gens ne soient pas affectés et leur capacité à utiliser leur terre ne soit pas affectée. Et pour tout ce qui est des impacts qui vont avoir lieu, peu importe, de compenser honnêtement ces personnes-là. C'est pas, les gens affectés ne devraient pas payer le prix d'un projet. C'est vraiment un projet qui doit être construit de manière à respecter ces enjeux-là et aussi à s'assurer que tout le monde y gagne d'une façon ou d'une autre.
Et dernière question, M. Bellerive. Quel est le message que vous voudriez transmettre, ou plutôt, qu'est-ce que vous demanderiez aux citoyens et au gouvernement pour faire avancer le projet de TGV dans les prochaines années?
Je crois de garder l'esprit ouvert. C'est assez simple comme message, parce que la réalité, c'est que le meilleur projet pour Alto va se bâtir de façon collaborative. C'est pas certains, on peut avoir des opinions qui divergent par rapport aux impacts et la manière qu'on vit ces impacts-là, mais je crois que de collaborer de façon volontaire, mais aussi productive, peut permettre de trouver des solutions qui vont justement adresser les impacts locaux et de donner les meilleures possibilités au projet d'avoir un impact positif sur le pays. Dans ce même sens aussi, je crois que c'est important d'encourager Alto à justement faire acte de présence dans les communautés le long du couloir. Donc, c'est la visibilité, c'est quelque chose qu'on croit qui est important, parce que c'est comme parler d'un projet, il faut être capable de partager son importance, mais aussi de partager les réalités dans lesquelles les gens vivent. Donc, on croit qu'Alto, c'est une excellente opportunité justement d'être présent dans ces communautés-là, de venir parler du projet, mais aussi de venir entendre ce que les gens sont préoccupés à propos d'eux et comment concrètement on peut adresser ces craintes-là.
Monsieur David Bellerive, porte-parole du projet Go Alto, en fait du mouvement Go Alto, et un des membres fondateurs. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, M. Bellerive, et au plaisir de vous reparler, parce que je pense qu'on va entendre encore parler beaucoup de ce projet Alto-là.
En effet, j'ai l'impression que c'est un projet qu'on va entendre pour de nombreuses années. Mais un vrai plaisir d'être là.
Merci beaucoup, M. Bellerive.
Cet épisode de Guillermo sur la Go a été rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
92.1 Go FM.